Bonjour et bienvenue dans ce 27e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, j'ai eu envie de vous parler des actes symboliques qui sont souvent utilisés dans le cadre d'un accompagnement en psychogénéalogie, mais aussi dans le cadre d'autres approches thérapeutiques. Les actes symboliques existent depuis toujours. On les trouve dans tous les rituels des civilisations anciennes. On les trouve aussi dans toutes les religions, par exemple le fait de verser de l'eau sur le front d'un enfant en signe de purification pour le baptiser est un acte symbolique. Nous en faisons aussi tous régulièrement sans forcément nous en rendre compte. Par exemple, quand nous nous débarrassons d'un objet qui nous a été offert par quelqu'un avec qui nous ne voulons plus avoir de lien, ou quand nous allons chez le coiffeur pour une nouvelle coupe de cheveux au moment de commencer une nouvelle période de notre vie. Alors un acte symbolique, c'est un acte qui a une signification et une portée plus grande que ce qu'il est. Mais pour pouvoir vous le définir, je voudrais revenir sur ce qu'est un symbole. Il y a des symboles qui sont assez universels, qui font sens pour l'ensemble des êtres humains ou des groupes culturels. Par exemple, le soleil qui représente souvent la vie, ou l'eau qui est souvent associée à la purification et au féminin. Mais les symboles sont avant tout personnels. Donc un symbole, ça peut être un mot, un chiffre, un objet, une couleur, une odeur, une personne, un événement auquel j'attribue un sens spécifique en lien avec une expérience intime, sensorielle ou émotionnelle. C'est la Madeleine de Proust. En fait, toute chose peut devenir un symbole puisque c'est moi qui donne à l'objet son statut de symbole. Par exemple, la couverture qui traîne sur mon canapé n'est qu'une simple couverture en laine pour tout le monde dans la maison, mais pour moi, elle représente infiniment plus qu'une simple couverture, parce qu'elle a été tricotée par ma grand-mère peu avant sa mort. Elle prend donc une fonction symbolique, elle est chargée de sens et d'émotions, dont une partie est assez consciente, je sais pourquoi cette couverture est importante pour moi, et une autre partie est inconsciente. C'est-à-dire que si je mets au travail la question de pourquoi cette couverture a pris une dimension si forte pour moi, je vais faire émerger des contenus inconscients relatifs à ma relation avec ma grand-mère. Pour la psychanalyse, le langage de l'inconscient est d'ordre symbolique. C'est d'ailleurs pour ça que le travail d'interprétation des symboles qui se présentent dans nos rêves nous permet d'accéder à des informations non accessibles directement à notre conscient. Cette intuition sur la fonction du symbole a d'ailleurs été appuyée par les travaux du neuroscientifique Antonio Damasio, qui confirme que l'être humain pense en symbole avant de penser en parole. Par exemple, pour le bébé, la chaleur de sa joue au contact du sein de sa mère symbolise le calme et la sécurité. Il associe bien une image, celle du sein, avec un contenu affectif émotionnel. L'acte symbolique, c'est donc un acte qui est posé dans un langage compréhensible par l'inconscient, qui a pour objectif de lui transmettre une information. Pour le dire autrement, réaliser un acte symbolique, c'est s'adresser à son inconscient dans son propre langage, en posant un acte. Et cette notion de passage à l'action et d'engagement du corps et de l'esprit participe d'ailleurs à son efficacité. Cet acte a pour objectif, par exemple, de nous libérer d'une croyance, d'une injonction ou d'une émotion, d'ancrer une prise de conscience, d'acter un engagement ou d'accompagner une transformation. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la réalisation d'un acte symbolique peut aussi faire remonter des contenus inconscients, comme des souvenirs ou des émotions qui étaient inaccessibles jusque-là. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Si on se place du point de vue de la psychanalyse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça marche parce qu'on s'adresse à notre inconscient dans son propre langage. Si on se place du côté des neurosciences, on sait aujourd'hui que notre cerveau traite de la même manière des émotions qui sont vécues dans le réel que des émotions imaginaires, suscitées par un film, un livre ou une visualisation interne, par exemple. La réponse physiologique apportée est la même. Par exemple, si vous avez peur devant une scène d'un film, vous aurez les mêmes signes physiques, une augmentation du rythme cardiaque, des palpitations, que si vous avez peur dans une situation réelle. Donc si l'acte symbolique crée ou transforme une émotion, elle pourrait donc être vécue et engrammée par le cerveau, comme si c'était vrai. Les actes symboliques peuvent être réalisés de différentes manières, en utilisant des objets, des vêtements, des photographies. D'ailleurs, à ce sujet, l'utilisation des actes symboliques repose sur le postulat que pour l'inconscient, la partie vaut pour le tout. C'est-à-dire que l'inconscient attribue un sens plus large à ce qui lui est présenté. Pour lui, une mèche de cheveux ou la photo d'une personne représente la personne. Une poignée de terre d'un pays représente le pays. La clé de la maison représente la maison. Les actes symboliques peuvent aussi s'appuyer sur l'écriture de lettres, la création d'objets ou la réalisation d'actes de la vie courante auxquels on donne un sens particulier. Et ils peuvent prendre plus de puissance symbolique s'ils sont réalisés à une date clé ou dans un lieu significatif. Il n'y a pas de recette magique puisque chaque acte a un objectif particulier pour la personne et doit être réalisé avec des symboles qui ont du sens pour elle. Quelques petites pistes quand même. En principe, l'eau est utilisée pour purifier, laver les souillures, faire partir. Le fait de brûler une lettre ou un objet évoque sa disparition, avec aussi un aspect purificateur. L'utilisation de la terre renvoie au cycle de la vie, à la renaissance. Dans un autre registre, par exemple, porter des vêtements neufs permet de signifier un nouveau départ. Porter des vêtements blancs parle d'une pureté retrouvée. Mais ce ne sont que des pistes à n'utiliser que si elles sont parlantes pour vous. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous donner quelques exemples simples avec différents supports, mais bien sûr, ils ne sont absolument pas à appliquer tels quels, mais plutôt à adapter à votre situation personnelle. Pour rendre à une personne des paroles blessantes, vous pouvez lui écrire une lettre en lui disant « Je te rends tes mots », en décrivant précisément ce qui vous a été dit et le mal que ça vous a fait, et en concluant par une phrase du type « Ces mots t'appartiennent, ils parlent de toi, ils ne me qualifient pas, ne déterminent pas qui je suis, en te les rendant, je m'en libère ». Ensuite, vous lisez la lettre à voix haute, seul ou devant un témoin que vous aurez choisi. Vous la brûlez, alors faites attention, prenez vos précautions pour ne pas brûler tout ce qu'il y a autour. Et vous faites partir les cendres sous l'eau courante. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de brûler, vous pouvez aussi poster la lettre sans adresse ou avec une adresse fictive. L'important, c'est que votre inconscient perçoive que le message est parti. Autre exemple donné par la psychopraticienne Elisabeth Horowitz dans un de ses ouvrages. Si vous avez 45 ans, que vous êtes célibataire, que votre mère vous a répété toute votre enfance que vous ne trouveriez jamais chaussures à votre pied, rendez-vous dans un magasin de la ville, essayez 45 paires de chaussures, offrez-vous la dernière dans un beau paquet cadeau et portez-la à votre prochaine soirée. D'autres actes symboliques pourront vous permettre de vous libérer d'une émotion non exprimée comme la colère ou la tristesse. Les femmes qui ont fait une fausse couche pourront par exemple symboliser le fœtus dans de l'argile, le nommer, puis accomplir un rituel de deuil, par exemple l'enterrer, lui écrire une lettre qu'elles liront à voix haute puis qu'elles brûleront et dont elles mettront les cendres à côté du fœtus dans la terre. Puis elles pourront planter un arbre au même endroit qui symbolise le cycle de la vie. Autre exemple, si vous ressentez une colère envahissante, vous pouvez l'écrire sur une feuille que vous brûlerez ensuite et dont vous ferez partir les cendres aux toilettes. Vous pouvez aussi l'écrire sur des assiettes que vous casserez et que vous jetterez à la poubelle. Si vous avez décidé de vous libérer du poids d'une culpabilité que vous vous traînez depuis plusieurs années, vous pouvez charger votre sac à dos avec des pierres dont le poids en kilos représente le nombre d'années en question et partir faire une randonnée pour aller enterrer ces pierres tout en haut d'une montagne. Pour acter un engagement que vous prenez envers vous-même, vous pouvez le symboliser. Par exemple, si vous avez décidé de sortir du cadre, de laisser votre créativité s'exprimer, vous pouvez accompagner votre transformation en prenant une photo de vous dans un cadre et en agrandissant chaque jour la photo de façon à ce qu'elle sorte réellement de l'encadrement. Voilà pour ces quelques exemples, j'ai essayé de les choisir tous différents pour vous montrer la diversité des possibilités, et vous voyez qu'il n'y a pas de limite, pas de règles précises, si ce n'est d'imager ce que vous ressentez ou la transformation que vous voulez accompagner. De mon côté, j'utilise souvent l'écriture, parce qu'écrire c'est sortir les choses de soi, c'est poser les émotions ou les réflexions pour qu'elles arrêtent de tourner indéfiniment dans notre tête. C'est les inscrire dans un lieu et dans une temporalité. Et en plus, le processus d'écriture en lui-même fait émerger des sensations, des émotions, des idées et permet de faire des liens qu'on n'avait pas faits jusque-là. Les actes symboliques ont été utilisés en thérapie à partir des années 70, notamment par l'école de Milan dans le cadre des thérapies familiales. Concernant plus spécifiquement la thérapie transgénérationnelle, Alejandro Jodorowsky, l'artiste et écrivain chilien qui fait partie des fondateurs de la psychogénéalogie, a développé ce qu'il a appelé la psychomagie. C'est une thérapie qui repose sur la réalisation d'actes symboliques. Si vous vous intéressez à son approche, vous verrez que les actes psychomagiques qu'il propose sont assez extrêmes, sans tabou, car elle considère que plus l'acte est original pour la personne par rapport à ses habitudes, plus il frappe son esprit et plus il est difficile à réaliser, plus les bénéfices qu'elle en obtiendra seront grands. Par exemple, à une femme qui souffrait de ne pas avoir été reconnue en tant que femme par ses parents, qui aurait préféré un garçon, il propose de se barbouiller le visage du sang de ses règles pour leur rendre visite. Personnellement, je ne partage pas son opinion, je pense qu'il existe un risque psychique à emmener une personne trop loin de sa zone de confort, et j'ai pu remarquer dans ma pratique que des actes symboliques simples, s'ils sont bien travaillés en amont et adaptés à la personne, suffisent pour obtenir des transformations. Je vais vous donner maintenant quelques exemples d'actes symboliques qui concernent plus spécifiquement le transgénérationnel, mais à nouveau ici, ce ne sont pas des formules magiques, donc il faut vraiment chercher ce qui fait sens pour vous, qui s'ancre à la fois dans votre culture, vos croyances, votre expérience personnelle. Dans le cadre d'un accompagnement en psychogénéalogie, les actes symboliques sont souvent utilisés pour se libérer d'une croyance qui s'est imprimée dans l'inconscient familial ou pour achever symboliquement l'inachevé d'un ancêtre. Par exemple, achever symboliquement un deuil qui n'a pu être fait ou faire une justice symbolique là où une injustice est restée impunie. Pour se libérer d'une injonction ou d'une croyance familiale, vous pouvez utiliser un objet qui vous vient de la famille et qui pour vous représente cette croyance et vous en débarrasser symboliquement. Par exemple, si dans votre famille circule la croyance que toutes les femmes sont malheureuses en amour, que vous sentez que cette croyance pèse sur vous un peu comme une malédiction et que vous souhaitez vous en libérer, vous pouvez enterrer un bijou qui viendrait des femmes de cette famille dans la terre, loin de chez vous, planter un rosier de rose rouge dessus, puis rentrer chez vous, prendre une douche et porter des vêtements neufs pour le reste de la journée. Pour achever un deuil qui restait inachevé et qui pèse sur l'inconscient familial, je vous renvoie à l'épisode consacré à la transmission du deuil pour en savoir plus. Il est important de faire émerger ces émotions qui ne vous appartiennent pas, qui sont souvent de l'ordre de la tristesse, de les nommer, puis de clôturer symboliquement le travail de deuil. Il existe autant de façons de réaliser un acte symbolique de deuil que de personnes, à nouveau. Les symboles varient en fonction de la culture, de l'appartenance religieuse, des croyances. Donc un acte symbolique de deuil pourrait par exemple être l'écriture d'une lettre à la personne disparue, que vous la connaissiez ou non, suivie de sa lecture à voix haute devant sa photographie, si vous en avez une, avec une bougie allumée ou un bâtonnet d'encens. Elle peut s'accompagner d'une lettre s'adressant à là où les personnes qui ont souffert de la disparition sans pouvoir l'exprimer, pour nommer leur souffrance et en libérer l'inconscient familial. Vous pouvez ensuite brûler les lettres et faire partir les cendres sous l'eau courante, ou les porter sur les tombes et les disperser avec de l'eau, à la date anniversaire du décès par exemple, ou une date importante pour vous. Vous pouvez accompagner ce travail d'écriture par une visite au cimetière ou en fonction de vos croyances, en brûlant un cierge à l'église ou en vous rendant dans un lieu symbolique pour vous. Si la personne décédée a été effacée de l'histoire familiale parce que c'était trop douloureux, vous pouvez aussi, par exemple, faire réinscrire son nom sur le caveau familial ou ajouter une plaque commémorative. Si la non-réalisation du deuil est en lien avec l'absence de corps suite à un décès pendant une guerre, vous pouvez vous rendre sur un lieu symbolique national. Par exemple, une visite sur la tombe du soldat inconnu si votre ancêtre est mort à la guerre de 14-18. Si le deuil est gelé parce que la personne n'a pas été enterrée dans son pays natal, vous pouvez symboliser le lien au pays d'origine en déposant un peu de terre de ce pays sur la tombe de la personne. Pour rendre justice à un ancêtre qui a été victime d'un abus, d'une agression, d'une spoliation, vous pouvez par exemple faire des recherches sur la peine encourue par l'agresseur, rédiger une décision de justice le condamnant, la lire à voix haute, puis la brûler et aller déposer les cendres sur sa tombe ou devant un palais de justice. Ensuite, écrivez une lettre à la personne qui a été victime pour lui indiquer que justice a été rendue et que l'inconscient familial est libéré de la mémoire de ses souffrances pour permettre à la lignée de vivre pleinement sa vie ou de retrouver l'abondance ou de retrouver une vie sexuelle épanouie en fonction de l'objet du crime ou du délit. Pour se libérer d'une souffrance non dite qui circule dans l'inconscient familial, il est important de la nommer, de signifier que la souffrance a été vue et entendue en écrivant par exemple une lettre à l'ancêtre concerné. Cet acte symbolique peut être accompagné d'une visite sur les lieux en lien avec l'événement qui a créé la souffrance, ou une visite sur un lieu symbolique comme le mur des noms des victimes de la Shoah à Paris, par exemple. Et enfin, pour redonner sa place dans la famille à une personne, on peut symboliquement refaire l'arbre généalogique en la réinscrivant dedans et envoyer une copie à toute sa famille. Certains actes symboliques peuvent être assez élaborés en fonction du message qu'on veut faire passer à l'inconscient, mais d'autres peuvent être plutôt simples et ce n'est pas la complexité qui fait l'efficacité, mais c'est plutôt la force des symboles utilisés pour la personne concernée et sa pertinence par rapport au but recherché. Comme vous l'avez vu à travers les différents exemples, les actes symboliques peuvent utiliser différents supports, s'exprimer à travers différents médias. Ils peuvent être réalisés une ou plusieurs fois. Il n'y a pas de recette toute faite, je le redis. Ce qui est important, c'est d'utiliser vos propres symboles, ceux qui font sens pour vous dans votre situation. Vous pouvez réaliser seul des actes symboliques simples pour dénouer des situations de la vie quotidienne, mais lorsqu'il s'agit de se libérer d'émotions douloureuses en lien avec des traumatismes ou de résoudre des conflits psychiques plus profonds ou plus anciens, je vous conseille de vous faire accompagner par un thérapeute pour vous aider à préparer l'acte symbolique et à suivre ses effets. Certains actes peuvent s'avérer très puissants et il existe un véritable risque de faire remonter des émotions en lien avec un traumatisme refoulé pour lesquels un accompagnement thérapeutique sera absolument nécessaire. Voilà pour ce rapide tour d'horizon des actes symboliques. Si cet épisode a éveillé votre curiosité et que vous désirez approfondir, vous trouverez dans sa description la liste des ouvrages sur lesquels je me suis appuyée. Et pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, rendez-vous sur mon site internet sophieduverne.com. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.